Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue au Balado Urbania.
Je m'appelle Sarah Buzel, je suis responsable du contenu éditorial pour Dehors, la verticale de plein air d'Urbania, et vous écoutez, bien évidemment, le Balado Urbania. Cette semaine, c'est le Marathon bénévent de Montréal, et on en profite pour dresser un portrait d'une petite ville du Kenya qui a été complètement transformée par le tourisme lié à la course à pied. Je suis en compagnie de mon collègue Jean Bourbeau, journaliste et photographe, qui revient tout juste d'un séjour à Iten. C'est le nom de la Mecque de la course à pied au Kenya. Là-bas, il a pu s'intégrer de cette atmosphère unique, en plus de côtoyer certains des meilleurs coureurs du monde. Salut Jean, ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va. Est-ce que tu peux commencer par me parler un petit peu d'Iten?
Oui, ben, en fait, Iten, c'est une petite ville à l'ouest du Kenya qui est, depuis le début des années 2000, devenue un peu la Mecque de la course à pied sur la planète. C'est une ville qui compte dans son, mettons, je dirais, dans son centre urbain, 10 000 personnes environ. Puis, il y a, on estime, entre 1 000 à 3 000 coureurs qui sont logés dans la région d'Iten. Donc, il y a beaucoup de coureurs kenyans, mais il y a aussi beaucoup de coureurs étrangers qui viennent s'entraîner à Iten, parce qu'Iten est niché comme à 2400 mètres d'altitude. Puis, ça a vraiment comme une espèce de melting pot de plein de facteurs qui sont vraiment... qui optimisent, dans le fond, ton entraînement de course à pied. Fait que les gens vont à Iten pour les bénéfices des lieux, puis après ça, ils vont faire des courses pour avoir, dans le fond, des meilleures performances.
Fait que là, toi, t'es allé à Iten, t'es allé courir?
Je suis allé courir, mais je suis allé surtout travailler grâce au soutien là, d'une bourse du Fonds québécois en journalisme international. J'ai réussi, dans le fond, à financer ce voyage-là. Je suis passé 2 semaines à Iten, un peu moins de 3 semaines au Kenya, mais 2 semaines à Iten. Et puis, j'ai couru, j'habitais dans un camp d'entraînement. L'idée, c'était surtout de travailler, mais à travers mon camp, de rencontrer des personnes qui allaient pouvoir m'aider dans mes sujets, parce que l'idée, c'était surtout d'écrire. Mais en même temps, je ne pouvais pas être à Iten sans courir, parce que c'est un peu l'ADN de la ville. Puis, ça va de soi. T'sais, qu'il faut courir à Iten, sinon tu manques une partie de l'expérience.
Oui, c'est ça. Fait que ça ressemblait à quoi, à peu près, ton quotidien là-bas?
Mon quotidien différait des autres stagiaires, parce que eux autres, c'est un peu l'idée, c'est train hard, rest hard. Fait que tu te lèves le matin avant que le soleil se lève, tu es à l'équateur, fait que le soleil se lève toujours à peu près à 6h15. Fait que tu te lèves à 6h, à 6h30, le groupe part, puis tu t'entraînes pendant, on va dire, une heure et demie, tu reviens, tu manges, tu dors. Tu reçois un massage, tu vas au sauna, la piscine, tu recours, tu manges, tu dors. C'est une vie très monastique. Fait que les gens ne font que courir et relaxer. Tandis que moi, je courais. Je courais peut-être un petit peu moins fort que les autres. Puis après ça, mon après-midi, j'essayais de travailler. Donc, rencontrer des personnes, faire des entrevues, aller dans d'autres villes qui t'aiment pour rencontrer des personnes. Il y avait des courses. Essayer de chaque jour de diversifier mes récoltes, puis essayer de tirer comme un grand portrait de la réalité. Pas juste d'Iten, mais un peu de la course dans la région du Grand Rift, qui était où est-ce que j'y suis. Parce que, en gros, pour expliquer, Iten, c'est l'épicentre de la course à l'ouest du Kenya. Mais l'ouest du Kenya est habité par un groupe ethnique qui s'appelle les Kalenjin, qui sont essentiellement les coureurs. Il y a 44 groupes ethniques au Kenya, puis la majorité des coureurs, des grands coureurs kenyans, sont issus du groupe ethnique Kalenjin. Donc, tu es en pays Kalenjin, la langue Kalenjin, la culture, la physionomie qu'elle engine aussi. Donc, Iten est l'épicentre où est-ce que les gens partent d'un peu partout en pays Kalenjin pour se retrouver à Iten, sauf que mon voyage m'a amené à aller dans d'autres lieux qui sont habités par des Kalenjin, mais qui ne sont pas nécessairement Iten, pour découvrir d'où est-ce que venaient les gens que j'ai rencontrés.
Puis, comment tu t'es senti accueilli en arrivant là-bas? Est-ce que tu étais accueilli comme un touriste? C'est quoi l'accueil qui est réservé aux gens qui viennent là pour courir, justement?
Tu es accueilli comme un stagiaire. Fait que tu es là pour... la majorité des gens vont rester là entre 2 semaines à plusieurs mois. Puis, plus tu restes longtemps, absolument, plus tu es sérieux. Donc, à mon camp, il y avait des coureurs là, tu sais, du dimanche, comme il y avait des gens qui s'entraînaient pour faire des demi-marathons, comme il y avait des gens qui s'entraînaient pour faire des national bests. Tu sais, il y avait vraiment là, tous les types de coureurs étrangers. Tu sais, comme je mangeais souvent avec un gars qui s'appelait Eric, qui vient de Hong Kong. Puis lui, il s'en allait à Berlin le 24 septembre pour battre le meilleur record, dans le fond, le record national de Hong Kong. Puis, il y avait des gens qui étaient comme « Ah, ben on vient à Iten pendant un mois, on retourne à Berlin, puis on va essayer de faire un genre sub 2.30. » Fait qu'il y avait du monde qui courait vraiment vite, comme il y avait du monde qui disait « Ah, ben moi, je m'en vais faire le demi de Copenhague, puis j'espère le faire en bas de 2 heures. » Fait qu'il y avait tous les profils de coureurs, mais tout le monde était accueilli de manière égalitaire. Tout le monde avait accès à des pacers de manière très horizontale. Il n'y a pas de distinction. En fond, dans un camp d'entraînement, il n'y a pas de distinction entre ceux qui courent très vite et ceux qui ne courent pas vite. Tout le monde est accueilli de manière très, 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 très chaleureuse. Les Kenyans que moi j'ai rencontrés dans la région d'Iten, une hospitalité là, absolument extraordinaire. C'est jamais forcé. À Iten, je pense que c'est un peu une bulle au Kenya. Étant donné qu'il y a comme une culture de la course, puis c'est relativement petit. C'est une région agricole, mais tout le monde se salue constamment. C'est sécuritaire. Tu te sens bien. C'est normal à Iten de s'asseoir à quelque part, puis que les gens viennent t'asseoir avec toi, puis vous parler. Parler, c'est comme une activité nationale au Kenya, donc c'est très... l'ambiance est bonne, puis l'accueil est bien. Après ça, c'est sûr que t'es blanc... T'es un blanc, tu sais, t'es blanc longtemps, mais j'ai pas senti que c'était inconfortable ou rien. Non, c'est même vraiment agréable de rencontrer une culture qui est aussi authentique, puis qui est pas encore, on va en parler, mais qui est pas encore un peu corrompue par le tourisme, si on peut le dire comme ça.
Mais c'est ça, dans tes articles, oui, t'abordes la réalité des Muzungu, est-ce que c'est comme ça qu'on le prend?
Muzungu, oui.
Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont les touristes venus pour courir, mais tu plonges aussi dans ce que t'appelles le rêve kényan, le fait de voir la course à pied comme un moyen d'échapper à la misère ou de redonner à la communauté. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce rêve kényan-là que t'as observé là-bas?
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que le rêve kényan, c'est un peu, c'est très proche du rêve américain. Il y a un film qui m'a beaucoup... quand j'étais au Kenya, il y a un film qui me revenait sans cesse, ça s'appelle Hoop Dreams, qui est un documentaire américain où est-ce que deux documentaristes suivent pendant plusieurs années deux jeunes afro-américains d'un quartier chaud de Chicago qui veulent faire la NBA, mais très rapidement, on sait qu'ils ne vont pas faire la NBA, puis on les suit dans cette idylle qui un peu que, t'sais, qui, du rêve américain qui est difficile, au final. Comment le rêve afro-américain te consomme. Puis, au Kenya, c'est pas nécessairement la même chose, mais à Iten, tu rencontres beaucoup de jeunes qui aspirent à devenir professionnels, qui aspirent à avoir une bourse qui va les amener aux États-Unis. Les gens viennent de la majorité de milieux très humbles. Au Kenya, on m'a appris que toutes les médailles kenyanes de l'histoire de l'athlétisme viennent tous de régions rurales. Donc, il n'y a pas de médaille kenyane qui vient de centres urbains. Tous les grands coureurs viennent de petites communes très, très modestes. Donc, les gens rêvent de sortir d'une pauvreté assez héréditaire ou d'une pauvreté agricole de subsistance pour être sur les billboards à Nairobi, comme les grands coureurs le sont en ce moment, où est-ce que Kipchoge signe des contrats avec Nike pour plusieurs millions de dollars. Il y a cette idée-là que je suis un Kalenjin, Je suis comme du groupe ethnique qui court, on est dominant sur la planète, donc moi je peux le faire aussi. Fait qu'il y a cette espèce de c'est pas une pression, mais c'est un imaginaire de la performance que les gens se collent après. Après ça, il y en a beaucoup qui réussissent, c'est quand même un nombre étonnant, mais il y en a aussi beaucoup qui vont rapidement comme devoir redescendre du rêve parce qu'ils vont avoir des blessures, ils vont être l'aîné d'une famille de plusieurs enfants, ils vont devoir aider la famille. Tu sais, la course, c'est quand même une profession pour les privilégiés. Puis les gens vont si tu vas à Iten, tu vas habiter souvent dans une maison avec plusieurs autres coureurs de ta région, puis vous allez tout partager. S'il y a des gains à l'étranger, si vous paissez pour quelqu'un qui fait des gains à l'étranger, vous allez revenir. C'est tout un écosystème de partage, mais aussi d'espoir pour gravir les échelons. Mais en même temps, tu abandonnes un peu ton patelin, puis ta famille qui t'a financé. Souvent, les gens vont être des fois financés par la famille. Fait que le rêve kényan, c'est une façon d'améliorer sa qualité de vie, sa condition de vie par la course, mais qui a aussi sa part d'ombre. J'en parle un peu dans mon texte, mais il y a quelque chose qui revient aussi, c'est l'ombre du dopage, parce que les gens viennent souvent de milieux, comme je disais, très humbles, puis l'idée de gagner une course, qu'elle soit alternative, qu'elle soit périphérique, comme ça soit une petite ville au Japon ou une petite ville en Allemagne, c'est quand même des sommes très intéressantes pour le milieu d'où tu viens. Donc, les gens, il y a aussi une partie coureur qui veulent devenir champion du monde, puis ils veulent rayonner, mais il y a aussi une partie coureur qui veulent juste que c'est une job. Les Kenyans vont dire, nous, on court pas parce qu'on aime ça courir, on court parce que c'est notre travail. Puis, leur nom, ils aspirent pas à ce que leur nom soit dans le grand livre de l'athlétisme. Le but, c'est de faire de l'argent. Le but, c'est d'envoyer ses frères et sœurs ou ses enfants à l'école. Le but, c'est d'acheter des bovins pour ses parents. Le but, c'est d'avoir une maison, de l'électricité, de l'eau. Tu sais, il y a une façon de voir la vie qui est complètement différente par rapport à la course à pied que nous, on connaît ici, qui est souvent un hobby de gens privilégiés. Là-bas, c'est une façon pas de s'en sortir, mais d'avoir accès à un futur avec plus d'opportunités, parce que la mobilité professionnelle est quand même assez limitée dans la région d'Iten. C'est soit que tu es un agriculteur, soit que tu vas faire un travail plus informel comme être soudeur, ébéniste, cireur de chaussures. Il n'y a pas de sous-métier, sauf qu'à Iten, tout le monde veut devenir coureur. C'est un peu les playboys, tout le monde est clean, tout le monde a des beaux vêtements. Il y a comme deux réalités qui se rencontrent, c'est les fermiers puis les coureurs.
Oui, c'est ça. Puis dans ton texte, tu dis justement, à chaque aurore, on peut donc observer la rencontre de deux mondes distincts. D'un côté, les agriculteurs portant machettes et bottes en caoutchouc, et de l'autre, les coureurs arborant leurs survêtements Nike impeccables. Puis tu dis aussi que les parents fermiers de Wesley Kimutai, qui portent juste du Adidas maintenant, grâce à lui, parce qu'il est commandité par Adidas. Fait que, est-ce que l'image des agriculteurs ou des ouvriers vêtus avec des grandes marques de sport, c'est commun à Iten? On dirait que c'est une belle métaphore de s'en sortir par le linge, mais au fond, de ne pas s'en être sorti.
Ben, c'est que tout le monde vient de milieux, la majorité, t'sais, de milieux agricoles. Puis quand tu es habillé en grandes marques, que ce soit ASICS, Puma, Nike ou Adidas, c'est un peu you made it. T'as réussi. Mais au final, tout le monde vient un peu du même milieu. Puis, il y a quand même un aspect très collectif au Kalenjin où est-ce qu'il y a moins de verticalité qu'on peut voir ailleurs dans d'autres communautés sur la planète. Mais tout le monde veut réussir. Puis, quand tu réussis à avoir un commanditaire, tu le montres. Parce que c'est important. Mais au final, je pense que tout le monde a encore une grande proximité entre eux. Mais courir, c'est un peu comme je disais, le métier noble que tout le monde aspire à devenir. Tu sais, Kimutai, je l'ai rencontré dans la rue, puis lui, il venait d'une famille nombreuse, puis il recevait 26 paires de souliers par année.
26?
Oui, par Adidas, puis c'est les meilleures chaussures de la catégorie. Fait que lui, il en donnait à son équipe, à sa famille. Tout le monde qui gravite autour de Kimutai profite de son commanditaire. Puis quand je dis qu'il y a une espèce une collectivité au sein des Kalenjin, c'est justement à travers leur précarité matérielle, du moins, il y a un grand partage au niveau des vêtements, mais aussi des repas puis des entraînements. Tout le monde s'aide. Puis ça, c'est quand même cool de témoigner de ça.
Mais oui, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que les gens sont un peu en compétition dans la ville, justement, parce que ce rêve kényan-là, cet espoir d'accéder à la gloire, mais que pas tout le monde va pouvoir y accéder. Fait que toi, tu dis que c'est plus à la camaraderie.
Moi, je posais souvent cette question-là, puis on me répondait tous comme « Tout le monde est ami, mais pas sur la piste. » Un coup qu'il y a une course, puis il y a des enjeux, là, il n'y a plus d'amis. Mais sinon, je trouve qu'il y a une belle camaraderie, puis j'ai pas vu... Y a pas de... Après ça, c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent en Kalenjin, mais... Je dirais que quand il y a une course, là, c'est sérieux, puis les gens sont... Moi, je suis allé à une course à Cabernet, dans le comté de Baringo, qui est voisin à celui d'Iten. Puis c'est sérieux, une course. Quand il y a un prix, d'un coup, là, les Kenyans, ils sourient moins, puis c'est le temps de travailler. Puis il n'y a pas beaucoup, tu sais, c'est le top 10 qui va recevoir une bourse, puis ça va vite. Petite anecdote, il y avait le demi-marathon d'Eldoret, qui est sûrement, genre, je dis ça comme ça, mais sûrement un des demi-marathons les plus vite au monde, parce que le premier, il avait terminé à 61 minutes, ce qui est rapide, mais le plus surprenant, c'est que je pense que le 75e, il avait fini à 64 minutes. Donc, il y avait une différence d'écart de 3 minutes entre le premier et le 75e. Donc, tout le monde a un niveau très, très fort, puis tout le monde essaie. Il y en a peu, dans le fond, il y en a 10 qui vont faire de l'argent. Mais il y en a combien qui sont très, très super bons. Tu sais, ça me fait penser à un personnage de Sarah que j'ai rencontré, personne que j'ai rencontré, qui tient un salon de coiffeur juste à côté de mon camp d'entraînement, qui s'appelle le salon de Sarah. Puis elle a été pro pendant une petite période de temps. Puis tu sais, elle a un PB au demi-marathon de 71. Puis là-bas, c'est une coiffeuse, puis elle est vraiment pas assez rapide pour devenir professionnelle. Mais ici... Ben, elle aurait gagné le demi à Montréal par une bonne longueur d'avance. Mais c'est ça un peu ça le Kenya, c'est une exception athlétique qui est nourrie dès l'enfance, puis qui a créé, une ambiance sportive unique, que les gens, les Muzungu, les étrangers qui vont courir à Iten, vont chercher ça.
Mais justement, parlons-en du tourisme sportif à Iten. Comment ça a transformé le paysage de la ville dans les dernières années?
C'était un peu ça ma prémisse de départ. C'était est-ce que Iten connaît une gentrification à cause du tourisme étranger? Parce que je me disais, si Iten, qui est une destination auparavant agricole, avec précaire au niveau de ses investissements, donc fragile, vulnérable économiquement, qui reçoit un tourisme privilégié qui vient de l'Occident, puis un flux continu, est-ce que Iten est à l'abri d'une gentrification? Puis c'était un peu ça ma prémisse. Puis quand tu arrives à Iten, tu dis, OK, il n'y a pas de vin orange à Iten, mais on est loin de... Les indices d'une gentrification, je devais aller les chercher ailleurs que dans Villeray ou que dans Outremont, c'est différent. Puis tout se fait un peu à travers la parole puis les rencontres, puis jusqu'à... Les instances gouvernementales que j'ai rencontrées, tout le monde va dire que les touristes sont les bienvenus parce que, justement, c'est des entrées d'argent. Les gens arrivent avec un avantage sur la devise étrangère qui est intéressant, un pouvoir d'achat qui fait du bien à Iten. Après ça, tout le monde vit bien de l'arrivée des touristes. Il n'y a pas de grand bouleversement qui est arrivé. Il y a quelques camps, mais ça reste que c'est un tourisme... relativement petit, qui n'a pas chamboulé les mœurs locaux. Après ça, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des avis un peu plus contraires qui expliquaient que, justement, les Muzungu viennent courir avec nous, mais ils ne sont pas vraiment respectueux du sérieux dans la course kényane parce que les autres sont là pendant juste un moment, puis après ça, ils quittent. Tandis que nous, c'est pas un hobby, c'est notre travail. Mais la majorité des gens que j'ai rencontrés étaient tous très accueillants. Puis l'idée de toucher un petit revenu ici et là avec un étranger, c'était pas problématique. Parce que justement, Iten est historiquement un lieu modeste. Donc l'arrivée de tourisme, c'est quand même exceptionnel dans l'ouest du Kenya, où est-ce qu'il y a peu de tourisme. Puis, tu sais, c'est ça. La prémisse que j'avais au départ à le bifurquer sur l'équilibre à Iten entre le cosmopolitisme puis l'authenticité, parce que si Iten perd son essence kényane, un peu comme Cancun, est-ce que Tu sais, est-ce que Cancun est toujours aussi mexicaine? C'est un peu ça l'idée. Est-ce que Iten, avec le temps, va garder de son essence kényane dans la mesure que, est-ce que les Kalenjin vont être attirés vers Iten un coup qu'il va y avoir plus de touristes? Parce que la course à pied est de plus en plus populaire. La majorité des gens qui étaient dans mon camp avaient commencé la course à pied pendant la pandémie. C'était tous des athlètes, des gens qui faisaient des sports, mais pour la majorité, incluant moi, on a tous commencé pendant la pandémie parce qu'il n'y avait plus de sport d'équipe, il n'y avait plus de sport de groupe. Donc, on a commencé à courir, puis on réalise que ben, ça va être exponentiel. Il va y avoir sûrement de plus en plus de gens qui vont aller à Iten. Après ça, Iten a une capacité d'accueil limitée. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se croître dans le futur. Mais pour l'instant, même quand tous les lieux d'hébergement sont pleins, la ville n'est pas non plus très... n'est pas chamboulée par l'arrivée des Blancs. Puis, il y a un truc qui m'a quand même assez fasciné quand j'étais là. C'est, tu sais, les camps d'entraînement sont... Il y a des grands murs, il y a des barbelés, il y a de la sécurité. Puis, les camps sont tous situés un peu en retrait de la ville. Puis, moi, je me rendais à la ville à tous les jours par plaisir de rencontrer les gens, puis ça faisait partie de mon expérience. Puis je croisais jamais de stagiaires. Les gens restaient dans les camps. Après ça, oui, il y avait toute leur routine de récupération. Mais moi, je trouvais ça fascinant à quel point les gens avaient peur de sortir des camps.
Est-ce que tu penses que c'était par peur ou c'était par discipline, justement?
Je pense que c'était plus par peur que par discipline. Les gens venaient me voir, font « Hey, je pense que je peux aller là, c'est-tu sécuritaire? » Puis je suis comme, oui, c'est complètement hallucinant. On est, tu sais, dans une région super accueillante. Puis, mais je pense que l'imaginaire d'une Afrique pauvre est encore, tu sais, entretenait encore beaucoup de gens là. Puis les empêchait de sortir du camp, ce qui était vraiment ce qui me fascinait d'une certaine mesure. Parce que moi, j'avais juste une expérience, tu sais, très très sécuritaire puis très agréable. Puis ça avait pas lieu d'être d'avoir peur.
Ben oui, puis toi, t'es vraiment allé à l'extérieur des camps aussi. T'as rencontré plein de monde, t'en parles dans tes articles, des acteurs de l'ombre qui soutiennent cette économie-là de la course.
Puis rencontrer les gens au Kenya, c'est pas difficile. Tout le monde a du temps pour à t'accorder, puis c'est pas compliqué. Puis tu marches dans la rue, puis tu peux parler à n'importe qui. Tout le monde se parle, la vie se passe surtout dans la rue. Les gens sont beaucoup moins casaniers qu'ici, donc... tu rencontres, tu t'en vas, dans le fond, tu vas au Kenya pour courir, mais tu vas aussi au Kenya pour l'expérience de sociale puis humaine qui est ce pays-là. Puis moi, ça a vraiment été, comme on va dire, deux pierres d'un coup parce que je me suis entraîné. Puis oui, quand tu reviens, tu as les avantages de l'altitude puis tu as l'impression que tout est plus facile, mais c'est aussi ça, c'est l'expérience de voyage puis de rencontrer une culture qui est à la fois super intimidante, mais extrêmement accessible. Tu sais, je me rappelle que, je pense, dans les 48 premières heures, j'avais rencontré Eliud Kipchoge, Kelvin Kiptum, puis Brigid Kopke. Fait que c'est les deux marathons les plus rapides de l'histoire chez les hommes, puis le plus rapide chez les femmes. Dans les 48 premières heures. Fait que, tu vois, le niveau est vraiment, vraiment fort, puis tout le monde est gentil, puis tout le monde est accessible.
Puis tout le monde court ensemble, peu importe leur niveau aussi.
Les plus vite, ils courent ensemble. Mais non, les Kenyans vont pas courir avec toi, par contre.
OK. Les Kenyans, ils courent pas avec les touristes?
Non. Non. Les touristes vont avoir des pacers.
Ouais, OK.
Mais la que tu paies, que c'est un service. Il y a une hiérarchie de la vitesse chez les Kenyans que nous, on connaît pas. Je pense que c'est à travers des groupes WhatsApp, mais c'est comme si t'es assez vite, t'as atteint tel groupe chat, puis là, on t'invite à tel spot à telle heure. Mais il y a une différence. Mais tout le monde est vite. Je veux dire, tout le monde est super vite. Puis aussi, si t'es jeune, tu peux pas faire un demi-marathon ou un marathon. Tu commences, tu vas faire de la track, tu vas faire 5000 mètres, tu vas faire un 10 000, puis après ça, tu vas monter, mais tout le monde doit respecter son âge, puis ses temps, puis ses distances. Fait que c'est... Il y a un écosystème de coureurs à Iten qui est loin, que les touristes n'ont pas accès.
Okay,
à moins que tu sois... Mais en même temps, non, j'allais dire, à moins qu'elle soit très vite. Mais dans mon camp, il y avait des gars sur des équipes nationales qui sont super vite, mais qui ne couraient pas avec les Kenyans parce que c'est comme ça.
Mais d'abord, comment tu sais à quelle heure y aller? Puis quand te pointer, mettons, pour aller courir?
Ah, ben au sein des camps, t'as des courses organisées.
OK.
Fait que tout le monde court à 6h30 le matin parce que ben, la température est fraîche, puis, puis il fait beau. C'était à l'équateur, fait qu'il fait toujours... le soleil se lève, fait que tu cours quand le soleil se lève. Mm-hmm. Puis après ça, ta journée est faite, ta course est faite, puis tu peux débuter ta journée. Mais mettons, au niveau des pistes, là où est-ce qu'il y a du trafic, dans mesure, où est-ce que les gens courent soit dans les chemins de terre ou sur les pistes, mais sur les pistes, il faut que tu arrives un peu plus tard. Il faut que tu arrives vers, je l'ai dit dans le texte, il faut que tu arrives vers 9-10 heures. Puis là, il va faire plus chaud, mais tu peux pas arriver à 6h30. Parce que là, les pistes, ça va, là, les gens vont aller vite. Le mardi puis le jeudi, c'est les journées de speed work, puis les gens vont aller vraiment vite. Puis les Kenyans vont jamais dire « Hey, va sur le côté », ils vont te dépasser en silence. Tu sais, moi, j'ai vu ma voisine de chambre là, qui allait vraiment pas vite se faire dépasser par Kipchoge. Je suis complètement hallucinant. Mais les gens sont polis, puis ils vont pas te le dire. Mais peut-être qu'un coach va te le dire, par contre.
Qui va te dire?
Il va dire, genre, reviens dans une heure. Là, ça va trop vite. On te dépasse. Genre. Parce qu'il y a pas de couloir dans les anneaux. C'est juste un couloir intérieur.
Tout le monde court.
Tout le monde court, là. Puis c'est sur de la terre battue. À Iten, t'as le Caminari Stadium, qui est un anneau mythique, qui est là depuis les années 50, puis depuis 2017, il est abandonné.
Pourquoi?
Parce que le gouvernement de Nairobi, le gouvernement comme central, a pris quelques anneaux prestigieux ou historiques, puis on dit que ça devient patrimonial, puis ils nous appartiennent un peu. C'est nous qu'on va assurer les coûts, l'entretien, etc. Puis on fait des rénovations, ça n'a pas marché, puis depuis maintenant 6 ans, il est à l'abandon. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller courir. Fait qu'il y a quand même une atmosphère très, très particulière à Caminari où est-ce que les coureurs les plus vites du monde qui sont là, dans un lieu abandonné, puis il y en a que ça gêne, puis il y en a comme moi, j'imagine, qui sont fascinés par cet endroit-là, que c'est tu cours dans des ruines, mais le niveau est fort, tout le monde fait des farclecs, des 1-1, genre à des vitesses complètement mongoles. Puis tu regardes ça, puis c'est magique. T'es sur le bord d'une falaise qui donne sur une vallée immense. Fait que c'est vraiment un Iten, c'est un lieu assez unique. Ouais, c'est un environnement comme... Je pense que c'est unique au monde. Il y a rien qui ressemble à ça. Fait que j'ai eu la chance d'y courir, mais j'ai aussi la chance de rencontrer plein de gens qui m'ont expliqué leur réalité, puis qui m'ont fait part de... Que Iten, c'est pas nécessairement juste un lieu tout rose où est-ce que tu fais juste courir, puis... tout va bien aller.
Ouais, courir sur un petit nuage, puis ouais. C'est tout. Ben merci beaucoup, Jean, d'avoir pris le temps de donner un aperçu de cette réalité qui est quand même vraiment loin de la nôtre.
Mm-hmm.
Évidemment, c'était juste un fragment de tout ce que tu racontes dans la série d'articles que tu as écrite où tu abordes la transformation de la ville par les touristes, les acteurs cachés qui rendent tout ça possible, le rêve kényan, comme on en a un peu parlé, ta poursuite des lieux de Kipchoge aussi, quand même drôle d'anecdote en texte. Et même, tu nous as concocté un guide pour ceux et celles qui voudraient vivre l'expérience eux-mêmes. Donc, tout ça, c'est à lire sur les plateformes d'Urbania. Si vous avez aimé ce balado, ben, partagez l'épisode. Abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel et Jean Bourbeau pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.